Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Guy Lopolarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouge, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour à tous.
Et voilà, merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Au sommaire aujourd'hui, Les Mafieuses de Pascal Dietrich aux éditions Liana Lévy et l'actualité 813 avec le dernier numéro de la revue de l'Association des Amis des Littératures Policières, association qui sera présente aussi à l'incontournable festival Quai du Polar à Lyon le dernier week-end de mars. Les Mafieuses, donc, Pascal Dietrich aux éditions Liana Lévy, avec une couverture qui nous fait rentrer directement dans le vif du sujet. Il ne s'agira pas de mafieuses au sens très simple de femme ou épouse d'un mafieux, mais bien de mafieuses féminines, de mafieux et de personnes donc qui eh bien, sont en plein dans des histoires de banditisme, de rackets, de meurtres et voilà, de sociétés, d'organisations criminelles. Hervé, peut-être pour commencer, avant de parler du livre, un mot sur Pascal Dietrich.
Oui, brièvement, Pascal Dietrich, on l'avait découvert il y a quelques années avec un premier roman, court roman, qui s'appelait Le Homard, publié aux éditions Inuit, dont on a déjà parlé ici plusieurs fois dans la collection Polaroid. Mmh. Et puis, il y avait eu après ce Homard, il y avait eu un recueil de nouvelles, je crois qu'il s'appelait Le Congélateur, aux mêmes éditions. Et enfin, l'an dernier, aux éditions Liana Lévy, Pascal Dietrich avait publié Une île bien tranquille, où on, qui était un polar qui se situait dans une île de Bretagne, où l'héroïne arrivait pour enterrer son père, qui était tombé d'un pic dans la mer, et où elle remarquait que les habitants avaient bien changé leurs habitudes depuis qu'elle était plus jeune, puisqu'ils possédaient des yachts, des voitures de luxe, ce qui n'est pas très utile dans une petite île. On n'en dira pas plus. C'était déjà une histoire bien mordante. Et puis on en arrive aux mafieux.
Pour situer quand même, donc je reprends la quatrième de couverture et présenter un peu cet auteur. Donc elle est née en 1981 et puis bon, elle est sociologue à l'INED à Paris avec des travaux quand même, c'est important, qui portent sur les populations précaires et les inégalités.
Elle travaille notamment sur le logement et sur les pauvres à Paris, qui sont évidemment des sujets à la fois très très forts et forcément d'une certaine d'une évidente dureté, d'une noirceur certaine, On va voir que ça n'empêche nullement Pascal Dietrich de faire preuve en matière littéraire de beaucoup d'humour.
Oui, d'ailleurs, donc ce livre est publié chez Eliana Lévy dans un catalogue présenté par l'éditeur Comédie Noire, hein, puisque on trouve dans le même catalogue notamment Yann Lévison, hein, donc dont on a aussi déjà parlé ici. Donc c'est un regard noir un peu différent du roman noir classique.
Tout à fait. C'est une chose qui est quand même qui est particulière et particulièrement plaisante actuellement, c'est-à-dire que la comédie policière qui en France n'avait pas tellement trouvé d'auteurs, évidemment que les auteurs français, on en parle assez ici, sont absolument passionnants, mais le côté prendre les choses par le biais de la comédie n'avait pas tellement été exploité, alors que, comme tu dis, aux États-Unis, Yann Lévison, Donald Westlake, Elmore Leonard ont pratiqué cela, en tout cas Westlake et Leonard, depuis très très longtemps. On en a évidemment parlé avec celui qui a été notre prix Ami Lamecker de l'an dernier, mais enfin, avec des gens comme Jackie Schwartzman et là Pascal Dietrich dont on parle, on a une comédie policière, jubilatoire, et qui en même temps sont aussi des auteurs qui nous parlent en nous faisant rire, mais qui nous parlent de notre société.
Tout à fait. Donc, alors, je disais en introduction, les mafieuses, une couverture qui nous met dans le vif du sujet. En fin de compte, on peut quand même considérer qu'il y a deux types de mafieuses dans le roman de Pascal Dietrich. La mafieuse par alliance, qui, donc, et en l'occurrence, c'est le personnage que l'on découvre au début du roman, Michel Acampora, qui a épousé par hasard, donc, le dénommé Léon Acampora. Enfin, quand je dis par hasard, sans savoir quelle était l'activité de cet homme. Et puis il y aura, on va y revenir dans un instant, donc les deux filles de ce couple, Michel et Léonore et Léon Campora, et dont l'une des deux devient, elle, vraiment mafieuse à part entière par conviction. Bon, en tout cas, tout commence par une situation surprenante. Donc c'est alors que Léon Acampora est en train de mourir, il a rédigé un testament particulier, surtout, et il a mis un contrat sur la tête de sa femme, estimant que il a hâte d'être à ses côtés pour l'éternité. Hein, donc sans ambiguïté, le message qui est laissé par Léon à sa femme adorée se termine par un PS, la personne que j'ai embauchée m'a assuré que tu ne souffrirais pas. Donc, on n'entrera pas dans le détail de cet acte, mais en tout cas, Léon Acampora sait qu'il va mourir, et il a envie que sa femme l'accompagne.
Oui, il a envie qu'elle l'accompagne. Il y a aussi une raison un peu plus triviale, on peut se dire. Quand même, c'est que malgré tout, c'est un mafieux à l'ancienne, si on peut dire. Et il a appris qu'en fait, les fois où il était absent, loin de Grenoble, où se passe le roman, sa femme l'avait trompé avec son meilleur ami, qui lui n'est pas de la mafia, et dans son code de l'honneur, ça c'est impardonnable. Donc effectivement, il lui fait ce cadeau très empoisonné d'avoir mis un contrat sur sa tête pour qu'elle le rejoigne dans l'au-delà. Oui.
Voilà. Mais en tout cas, c'est cette Madame Michel Acampora, bien entendu, n'envisage pas du tout de subir ce châtiment. Et donc, elle fait appel à sa fille. Alors donc la fille Alicia, celle qui a choisi, alors qu'il y a une sacrée couverture hein, pour travailler dans ce pilule-là, où notamment
ça,
où il y a du trafic
c'est
de drogue.
Très original,
voilà, elle est pharmacienne.
Je ne sais pas si tu es déjà allé à Grenoble.
Non.
Moi, on me l'avait raconté la première fois où j'y suis allé, il y a assez longtemps. Il y a une chose, et qui est d'ailleurs dans le roman, c'est-à-dire que quand on va sur le quai Saint-Laurent, le long du Rhône et tout, on voit il y a une vingtaine de pizzerias alignées les unes à côté des autres. Et c'est ce que, si on peut dire, la mafia à l'ancienne, il y en a peut-être une ou deux honnêtes dedans, hein, mais enfin, en gros, moi, la personne qui m'avait montré ça m'avait dit c'est là que se blanchit, se blanchit l'argent.
On voit quand même bien des pizzas dans toutes ces pizzerias.
Oui, je pense. Il y a de la mozzarella, pas que de la poudre blanche.
D'accord.
Mais, là, la couverture qui était absolument excellente, cette idée est fameuse, c'est que Alicia tient une pharmacie.
Oui.
Et Pascal Dietrich nous raconte évidemment de manière assez humoristique tous les avantages qu'il y a d'un tel commerce pour le business qu'elle fait, puisqu'elle deal du shit, de la cocaïne, etc.
Oui, alors donc, la fille, alors, l'autre fille, elle, est vraiment... peut-être pour régler cette question d'héritage très particulier de l'activité de son père. Elle s'est investie, elle travaille dans l'action humanitaire, donc il ne faut pas lui parler des activités de son père, donc ni même de sa sœur Alicia, pharmacienne, et qui va tenter d'aider sa mère à échapper à la poursuite, hein, la poursuite du tueur qui la recherche hein, pour accomplir sa mission. Et cette action d'Alicia pour protéger sa mère passe par une reprise en main d'un territoire très convoité quand même du défunt, qui était, alors c'était peut-être pas le parrain du secteur, mais c'était quelqu'un qui avait des activités criminelles assez importantes et un réseau assez important. Et donc son décès, puisqu'il va il meurt assez vite hein, au début du roman, va entraîner un certain nombre de convoitises. Et Alicia doit se lancer dans une opération de nettoyage avec détermination et sang-froid. Et à un moment, donc, Pascal Dietrich écrit, elle en avait marre que les hommes s'accaparent le pouvoir alors qu'ils étaient moins compétents qu'elle, puisqu'on ne la laissait pas monter en grade, elle allait faire le ménage. Et donc là, bien sûr, dans la formule, il y a tout l'humour de Pascal Dietrich qui joue avec cette notion de ménage.
Ben complètement, complètement. C'est tout à fait intéressant parce que les deux sœurs sont toutes les deux très intéressantes. L'une, Alicia, tu l'as dit, n'a absolument aucun état d'âme. Enfin, elle fait, elle n'est pas non plus du tout. Elle n'a aucune perversité non plus. Mais enfin, elle fait ce boulot-là comme une executive woman. Voilà quoi. Avec en plus. Évidemment, la mort de son père veut dire qu'il va y avoir quand même des bagarres d'héritage et elle va en profiter pour prendre la main et pour monter dans la hiérarchie de ce que
on peut le dire
qu'Altrich appelle le système avec un grand S, c'est-à-dire la mafia. Et de l'autre côté, il y a Dina, l'autre sœur. Toutes les deux d'ailleurs ont des relations y a un côté elles copinent aussi, mais c'est compliqué parce que Dina, elle, est absolument bourrée d'état d'âme. Elle déteste cette activité. À un moment, elle dit qu'elle enviait ceux qui avaient grandi dans une famille où la cave servait seulement à stocker des bouteilles de vin des conserves ou des bocaux. Parce qu'évidemment, chez les Acampora, la cave, quand elles étaient gamines, servait à autre chose. Voilà. Et à des choses pas forcément particulièrement agréables à entendre ou voir pour des enfants. Mais alors, elles travaillent, et ça c'est un autre aspect qui est très intéressant, elles travaillent sans doute pour compenser, elle a choisi de travailler dans l'humanitaire, je crois que l'association s'appelle Urgence Médicale ou un truc comme ça, et elle a Urgence Majeure, pardon. Et elle a et en même temps, le tableau qu'elle fait de l'humanitaire est assez terrifiant, puisque elle dit cela, elle trouve des similitudes en fait avec le milieu, avec le système, avec la mafia. À un moment, je crois que c'est au début, il y a un tableau assez réjouissant en même temps et assez redoutable, assez terrible d'une réunion du personnel de cette ONG, la Urgence Majeure. Et elle dit, pour la directrice générale, le plus important était que ses employés ne salissent pas l'image de l'ONG pour ne pas faire chuter les dons et qu'ils décrochent les marchés les plus juteux possibles. Tout le reste était secondaire. Sur ces points, elle aurait été en parfait accord avec les parrains du système. Ce qui fait que, en fait, elle va décrocher de ça et rêver de faire autre chose. Et alors, ça aussi, c'est un rebondissement assez cocasse. Elle va faire, alors qu'il y a un dîner de deuil qui est prévu entre la mère et les deux filles, dans un supermarché, elle va faire la rencontre de Marcus Drummond, qui est champion d'Europe des desserts glacés. Je ne savais pas que ça existait, et qui va évidemment jouer, dont elle va tomber amoureuse, et qui va jouer un rôle que nous ne voyons pas dans cette histoire.
Il n'est pas que cela, bien entendu.
Non, mais pas tout à fait.
Mais justement, bon, il y a, c'est vrai, on parlait de comédie noire, il y a beaucoup d'humour, de finesse, et bon, sans donner l'air, Pascal Dietrich aborde quand même la question de la place de la femme dans la société, et aussi dans ces sociétés-là, qui sont effectivement des sociétés à part entière, même si elles sont secrète. L'humour, je pense à plusieurs scènes. Il y a la scène de la balancelle. Elle organise une réunion avec ses associés, et elle se dit, moi je vais les installer dans une balancelle, et forcément ils se comporteront différemment. Et c'est vrai que on a des images plein la tête de mafieux, etc. Imaginez des mafieux, des Marlon Brando, Al Pacino, de se réunir et puis en train de se balancer avec les jambes qui pendouillent. Voilà, c'est toute la force de ce roman.
L'image était à la fois extrêmement drôle et en même temps très parlante, parce que, comme elle dit, parce que justement elle discute de ça avec sa sœur, et sa sœur lui dit mais qu'elle préfère les poufs, je crois. Oui. Et elle dit mais non, j'achète une balancelle parce que sur des poufs il serait là posé, solide, il commencerait à se gratter les couilles et tout ça, tandis que là, sur la balancelle, en gros, ça va redevenir ces mafieux machos, ils vont devenir des petits gamins, quoi, voilà. Et c'est une manière d'avoir de l'emprise. Et je trouve qu'à travers ces portraits de femmes qui sont très très présentes, et qui sont justement, le titre est très parlant, mais qui sont des figures, c'est les figures marquantes du livre, beaucoup plus que les hommes qu'on y croise.
Bien sûr, bien sûr.
Et elle, c'est aussi un roman noir absolument désopilant et aussi d'un féminisme bien affirmé. Et ça, c'est très plaisant, ça.
Oui,
et
puis elle inverse complètement les rôles avec le compagnon d'Alessia, qui pourrait être considéré comme un mafieux par alliance, hein, qui vit avec cette Alessia. Et c'est donc.
Il fait de la musique, il fait les courses et il s'occupe des enfants, si j'ai bien.
Voilà, et il sert le café quand Alessia réunit ses hommes et elle le flatte comme peuvent être flattées les épouses de mafieux par leur mari, justement. Donc ça, c'est aussi.
Complètement. Et puis il y a quand même aussi des choses. Alessia, qui décidément n'a pas froid aux yeux, à un moment, elle voudrait quand même faire parler, parce que quand le père n'est pas encore mort, il est à l'hôpital, dans le coma, et elle voudrait qu'il leur dise qui il a pour inverser le contrat. Mmh. Elle voudrait savoir qui il a chargé de tuer sa mère. Mmh. Et dans ce cas, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive avec un sécateur de jardin et elle menace de lui couper un orteil, ce qu'elle fait d'ailleurs, mais ça ne donnera pas de résultat. Enfin, on est dans des scènes assez énormes. Et puis aussi avec des choses frappées du coin du bon sens, quand elle fait la leçon à son fils Matteo, qui est plutôt du genre à glander et qui rêve en fait de rejoindre la mafia parce que c'est une facilité familiale, disons. Et elle lui dit: commence par obtenir ton bac avec mention. Aujourd'hui, la mafia ne recrute que des diplômés des grandes écoles. Fais HEC ou l'ESSEC et tu auras peut-être une chance.
Oui, et peut-être que la morale au final de ce roman, c'est que dans la mafia, on doit savoir choisir son entourage, mais on ne choisit pas toujours sa famille.
Oui, ça, c'est ça.
Radio PFM, Variation en noir, émission réalisée en collaboration avec l'association 813. Nous venons de parler des mafieuses, les mafieuses de Pascal Dietrich, Liana Lévy. Je pense que vous avez reconnu la musique, Hervé. Hervé, oui.
Ne reste pas le parrain.
Oui, voilà, la musique de Nino Rota. Alors peut-être qu'un jour, il y aura un film qui s'intitulera avec un scénario de Pascal Dietrich, La Marraine, hein, qui sait. Alors justement, Hervé, bon, je pense que tu vas bientôt rencontrer Pascal Dietrich.
Eh bien, tu es bien renseigné, dans le cadre du festival Quai du Polar et du partenariat 813A avec ce festival, ce très gros festival depuis sa création, je dois animer une rencontre jeu de mots noirs et rire jaune dans laquelle il y aura Pascal Dietrich et ainsi que justement Jacques Schwartzman dont on a parlé, Sophie Chabanel, Sophie Hénaff et Marcel Audiard, le petit-fils de Michel Audiard.
Alors, justement, Jacques...
Je voudrais aussi dire que, si tu me permets,
vas-y.
Que le dimanche matin, il y aura une autre table ronde aussi que j'anime, où on rendra, presque 10 ans après sa mort, hommage à ce très grand écrivain de romans noirs qui était Thierry Jonquet. Et que pour faire cela, il y aura Marie-Caroline Aubert qui est éditrice actuellement à la série Noire et à La Noire et qui vient de coécrire le Polar pour les nuls. Mmh. Il y aura Patrick Reynal qui a dirigé la série noire. Mmh. Et il y aura Hervé Lecor qui est un écrivain dont nous avons déjà parlé ici et qui vient de publier Dans l'ombre du brasier.
Voilà, donc ça c'est au programme, entre autres, hein, bien entendu, d'un très gros festival, le plus gros festival.
Oui, je crois que cette année, il y a 140 auteurs invités, ouais. Venus de quatre coins de la planète et aussi de France, évidemment. Mmh. Et il y a des dizaines et des dizaines de débats de vendredi début d'après-midi jusqu'à dimanche soir, oui.
Eh bien, écoute, Hervé, un bon festival à toi, et puis tu nous raconteras. Tu nous raconteras. Alors, tu parlais de toujours cette idée de comédie noire de Jackie Schwartzman. Eh bien, dans le dernier numéro de la revue 813, le numéro 132, qui est sorti il y a peu, hein, c'est une revue trimestrielle. Signalons l'édito. Qui est un hommage très simple mais très fort à Claude Mesplède, dont on a aussi parlé, hein, ici même. Claude Mesplède avec une photo qui est... une photo qui donne une bonne idée de ce que pouvait représenter Claude Mesplède, où il porte une ardoise sur laquelle est inscrite une seule certitude, le doute. Vraiment, un message fort et un bel hommage à Claude Mesplède. Donc une revue avec en introduction justement une rencontre, un échange, des propos que tu as recueillis auprès de Jackie Schwartzman, et ça s'intitule Bourdieu en cartoon. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce titre de l'article Bourdieu en cartoon?
Parce que c'est une formule que Jackie Schwartzman aime bien, c'est-à-dire, je me souviens que quand on avait évoqué Demain c'est loin sur cette antenne, on avait dit que derrière le côté tout à fait humoristique, désopilant, déjanté de ce roman où on avait à la fois un gars venu des cités et une banquière qu'un événement obligeait à partir en cavale ensemble, alors que c'était évidemment une rencontre hautement improbable au départ, qu'il y avait en creux dans ce que racontait Jackie Schwartzman, tout ce qui l'intéressait aussi, c'était de mettre en contact ces mondes, ces cultures, ces personnages dans la société que tout opposait. C'était de mettre aussi en scène cette fracture-là, et d'où le Bourdieu en cartoon. On découvre aussi dans cette interview qu'évidemment j'aime bien un passage où Jackie Schwartzman parle du divertissement et de la littérature. Il dit « On oublie à quoi sert un livre, nous divertir, au sens pascalien, pas au sens du spectacle. Mm-hmm. Nous divertir du temps qui passe et donc de la mort, nous arracher à notre condition. » C'est-à-dire que, et évidemment Jackie Schwartzman qui avait, on découvre ça, qui avait commencé pendant des années à écrire des livres très très sérieux,
Il explique ça.
Voilà. Finalement, c'était des livres sérieux, tristes et en fait, qui n'allaient pas. Et en fait, il s'est mis à raconter des histoires marrantes, mais à travers lesquelles passe une vision très très acérée de la société, des milieux qu'il décide de situer les aventures de ses personnages.
C'est roman. Alors bon, je rappelle, Jackie Schwartzman, lauréat du prix Amila Mekker 2018, il sera donc à Arras le 30 avril prochain pour remettre le prix Amila Mekker 2019 dans le cadre de la soirée d'ouverture du Salon du Livre, et il sera aussi présent le 1er mai à l'occasion du Festival du Livre d'Expression Populaire.
Oui, on peut dire que je parlais de cette mise Il a depuis Demain c'est loin publié Pension complète au Seuil, et où là, et ben une fois encore, c'est la mise en, cette fois c'est dans un camping du sud de la France, et c'est la mise en relation qui est totalement improbable elle aussi, et la complicité incongrue qui va s'instaurer entre un prix Goncourt qui prend des congés pour essayer de trouver de l'inspiration et un gigolo venu du Luxembourg. Mmh. Voilà.
Beaucoup de choses comme d'habitude dans cette revue 813, beaucoup de pistes de lecture, des sorties récentes, un retour aussi en arrière, et notamment un retour vers 68, beaucoup de, et donc ça c'est la chronique cinéma de notamment de François Guérif qui revient sur les films sortis en 68, donc plein d'idées aussi là, de films à voir ou à revoir. Un gros dossier, comme d'habitude. Alors, destination, il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps, on ne pourra pas détailler, mais une destination plutôt exotique en termes de roman noir, le Brésil. Et un dossier qui commence par cette question, le roman policier brésilien existe-t-il ? Ma foi, le dossier en fait la démonstration, mais j'avoue que personnellement, je ne m'attendais pas à découvrir autant d'auteurs et même publiés en France brésilien de ces littératures policières.
Ben oui, c'était un peu là. 813 était aussi et tout à fait aussi dans son rôle, c'est-à-dire que on nous a proposé effectivement un dossier qui parle du polar brésilien depuis, disons, son émergence, qui s'inspirait, comme d'autres romans policiers, hein, d'ailleurs, de faits divers, enfin, ces romans un peu de faits divers et judiciaires de fin 19e, voilà, et puis pour en arriver dans un pays dont on sait quand même que l'histoire est particulièrement mouvementée, on le sait d'autant plus ces temps-ci, mais qu'une littérature policière est de plus en plus une littérature, un roman noir, s'ils sont frayés un chemin littéraire. Bon, il y avait des auteurs comme Ruben Fonseca, sur lequel on revient dans ce dossier, qui était un peu connu et un peu lu ici, mais depuis, il y a eu de nouvelles plumes, des auteurs du roman de la périphérie, du roman très urbain, très noir, comme Edira Augusto, qui est un auteur qui a publié, je crois, 4 romans aux éditions Asphalt, et qui, d'ailleurs, nous a donné une nouvelle inédite pour ce numéro, et qui est très révélateur de cette tendance du noir urbain.
Alors aussi, Hervé, nous conclurons là-dessus pour ce Variation en noir, hein, une rencontre, une conversation sur le front criminel, une conversation menée par Gérard Leca avec Benoît Tadier, qui a publié un ouvrage en janvier 2018, Front criminel, une histoire du polar américain.
Eh ben oui, parce que Benoît Tadier, il avait déjà produit un livre qui avait eu le trophée 813, d'ailleurs, oui. Un livre particulièrement remarquable, qui était Le polar américain, la modernité et le mal. Et ce Benoît Tadier, il est extrêmement érudit sur le roman noir, qu'il lit en plus en version originale, et il s'est beaucoup penché, notamment dans Front criminel, sur la liaison absolument indissociable qu'il y a entre l'émergence d'une littérature populaire à travers les pulps, les petits magazines à 4 sous dans lesquels on commençait à publier les histoires polars à partir des années 20, et pour donner le grand roman noir, sa suite, et puis le mouvement même de la société américaine, et il nous montre comment le roman noir américain à la fois est un roman populaire, un roman qui correspond à un élargissement de l'expression littéraire, et son élargissement à des masses plus vastes, et en même temps, comment il est aussi, à travers des auteurs à la fois très différents, mais comment il est aussi un espace de résistance résistance à la tendance mainstream du, disons, du capitalisme américain et de ses effets culturels, disons.
Avec aussi un échange, moi, qui m'a intéressé sur la notion de behaviorisme. Et,
oui.
Et donc, je suis tout à fait d'accord, dit Benoît Tadier, avec son interlocuteur, donc avec Gérard Leca. Oui. À mon avis, le behaviorisme est un mythe en partie créé par la littérature française. Donc, là aussi, un échange intéressant. En tout cas, donc, à lire.
Très intéressant parce qu'effectivement, effectivement, ça tord un peu aussi le coup à quelque chose d'un peu trop normé qui était que derrière le behaviorisme, on avait tendance à un peu... Il n'y avait pas trop de tête qui dépasse. Et ce qui est intéressant aussi avec Tadier, c'est qu'il met des choses en relation avec la culture américaine tout à fait contemporaine. À un moment, je pense qu'il parle, si je me souviens, il parle de la série Mr. Robot. Enfin bon,
oui,
voilà,
oui.
C'est-à-dire que ça n'est pas... Ça n'est pas du tout on ne feuillette pas les pages du passé. C'est une conception littéraire très dynamique.
Voilà, donc à lire Les Mafieuses de Pascal Dietrich chez Liana Lévy, et puis le dernier numéro de la revue 813, le numéro 132, avec un dossier Mad in Brazil. C'était Variation en Noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission de radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir, Guy.
Et rendez-vous dans un mois pour de nouvelles Variations en Noir. D'ici là, de très bonnes lectures à toutes et à tous.